VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 9 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon.
Et Eric Manilakidze.
On commence par les titres.
Au Burkina Faso, le président Roch Kabore met fin aux fonctions du Premier ministre et de son gouvernement.
7 casques bleus togolais ont péri au Mali, tués par un engin explosif dans le centre du pays.
Le gouvernement annonce la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire pour le 16 décembre.
En Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz a pris mercredi ses fonctions de chancelier. Le pays tourne définitivement la page des 16 années de pouvoir d'Angela Merkel.
N'en manque pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Et pour l'instant, le journal.
Le président américain Joe Biden réunit ce jeudi et demain vendredi une centaine de pays pour un sommet pour la démocratie. L'événement organisé virtuellement à Washington DC pour cause de pandémie de COVID-19 se veut, selon la Maison-Blanche, révélateur du combat entre les démocraties et les dictatures et régime autocratique au cœur de la politique étrangère de Biden.
Le sommet rassemble les représentants d'une centaine de gouvernements, d'ONG, d'entreprises et d'organisations caritatives. Mais la liste des invités a provoqué de vives tensions. La Chine et la Russie, considérées par le président Biden comme les champions du camp des autocrates, ont ainsi fustigé leur exclusion. Nous reviendrons sur ce sommet dans la seconde partie de cette édition.
Au Burkina Faso, le président Marc-Christian Kabore a mis fin hier aux fonctions de son premier ministre Christophe Dabiré et des membres de son gouvernement alors que le pays traverse une crise sécuritaire difficile. Un nouveau gouvernement est attendu dans les jours à venir. Un gouvernement resserré, selon les mots du président du Faso de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'annonce est faite par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou au journal de 20h de la télévision nationale. Le président du Faso, par décret et suite à la démission du premier ministre, a mis fin aux fonctions de ce dernier et des membres de son gouvernement. On savait que le gouvernement allait être dissous, mais quand ? Après l'attaque d'Inata au Sahel qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils le dimanche 14 novembre, Roch Kabore, face à la pression populaire, dans une seconde adresse en l'espace de quelques jours, avait annoncé un gouvernement resserré. Dans un contexte de fortes aspirations populaires, j'invite les Burkinabés, dans leur ensemble, à se mobiliser pour soutenir le président du Faso et le nouvel exécutif qui sera mis en place, a aussitôt écrit sur les réseaux sociaux Christophe Dabiré, le premier ministre sortant. Dans son adresse à la nation, Roch Kabore avait promis un gouvernement resserré, sans élaborer ce qu'il entend par cette expression. Depuis l'attaque d'envergure d'Inata, le président Kabore a opéré de nombreux changements au sein du commandement de l'armée. Il a demandé un rapport à l'armée pour situer les responsabilités. Le rapport produit a été rejeté par le président, selon le quotidien national. Un autre rapport est attendu le 13 décembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
7 casques bleus togolais ont été tués hier et 3 autres grièvement blessés par un engin explosif dans le centre du Mali. Cette nouvelle attaque a suscité une ferme condamnation du secrétaire général de l'ONU, Abdourahmane Dia.
Selon la mission de l'ONU au Mali, les victimes faisaient partie d'un convoi logistique allant de Douenza à Sévaré, dans la région de Mopti. L'incident a eu lieu dans la zone de Bandiagara, où une trentaine de civils ont récemment été tués. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement cette attaque odieuse, a déclaré Stéphane Dujarric à New York. Le Mauritanien El Ghassim Wan, chef de la MINUSMA, a lui aussi condamné vigoureusement cette attaque qui, selon lui, vient alourdir le décompte macabre des attaques contre les soldats de la paix au Mali. Ce nouvel incident survient au lendemain de l'annonce par la MINUSMA du décès lundi à Dakar d'un casque bleu égyptien qui avait été touché dans l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule. C'était le 22 novembre près de Tessalit, dans le nord du Mali. Il avait été amené à Dakar pour des soins avec 2 autres soldats de la MINUSMA blessés au cours du même incident. La MINUSMA, déployée depuis 2013 au Mali, est la mission de paix la plus dangereuse au monde avec 146 de ses membres tués au 31 octobre dernier.
En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication a annoncé hier que le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition va reprendre le 16 décembre. Les précisions avec Mohamedou Mfa.
Le dialogue politique va reprendre. Des courriers ont été adressés aux différents membres des partis politiques. La date, c'est le 16 décembre à la primature, a annoncé Amadou Koulibaly à l'issue d'un conseil des ministres. Trois responsables des principaux partis pourront y participer, a-t-il ajouté. Reste à savoir si les leaders de l'opposition vont se déplacer eux-mêmes ou s'ils se feront représenter, en particulier les deux poids lourds, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Suspendu depuis près d'un an, ce dialogue vise à décrisper le climat politique après les violences autour de la présidentielle d'octobre 2020 qui avait fait 85 morts et 500 blessés. Depuis le retour de Laurent Gbagbo dans son pays en juin dernier, plusieurs signes d'apaisement ont toutefois été lancés. Le président Alassane Ouattara l'a notamment reçu fin juillet, une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011.
Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées hier dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Tchad, dans des affrontements entre pêcheurs et bergers, a annoncé le préfet de la région sur la radio d'État. Des pêcheurs Mousgoum, venus de toutes parts, ont attaqué des quartiers peuplés, principalement de bergers arabes, Koa à Kousseri, a déclaré Jean-Lazare Ndongo Ndongo sur la CRTV. Le calme est revenu après les affrontements, a-t-il assuré, mais de nombreux habitants ont fui leur domicile et se sont réfugiés au Tchad voisin.
Les ministres congolais et ougandais de la Défense se sont retrouvés hier à Bunia, en Ituri, pour évoquer la mutualisation et l'harmonisation des opérations lancées le 30 novembre dans l'est de la RDC contre les rebelles ADF. Le 30 novembre, l'aviation et l'artillerie ougandaises ont pilonné des zones en Ituri au nord de Kivu, province congolaise frontalière de l'Ouganda, où avaient été repérées des bases des ADF, Forces démocratiques alliées, un groupe accusé par Kampala d'être responsable de récents attentats sur son sol revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique.
Les violences au Soudan du Sud pourraient constituer des crimes de guerre selon Amnesty International. Les civils ont subi des violences inimaginables depuis le début de l'année au Soudan du Sud lors des affrontements entre les groupes armés pro-gouvernement et les forces d'opposition qui pourraient être assimilés à des crimes de guerre, a déclaré aujourd'hui l'Organisation des droits de l'homme.
Un organe consultatif libyen, le Conseil d'État, a appelé hier au report de l'élection présidentielle programmée le 24 décembre en raison des nombreux contentieux sur les règles du scrutin et sur la légitimité juridique de ce vote censé mettre fin à 10 ans d'instabilité dans le pays. Le Conseil d'État, dont la création remonte à un accord conclu en 2015 mais qui n'est pas reconnu par toutes les composantes politiques libyennes, a préconisé le report du scrutin à février 2022.
Une nouvelle ère politique s'ouvre en Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a succédé hier à la chancelière Angela Merkel. Claire Morin-Gibourg.
Après 16 ans de pouvoir, celle que l'on surnommait l'éternelle chancelière a passé le relais à Olaf Scholz, son ancien ministre devenu le nouvel homme fort de la première puissance économique européenne. Avant de quitter la chancellerie, Angela Merkel a appelé son successeur à travailler pour le bien de l'Allemagne. Monsieur Scholz lui a en retour rendu hommage pour tout ce qu'elle a fait pour le pays et promis un nouveau départ. Élu avec une confortable majorité des 736 députés à la Bundestag, Monsieur Scholz entame un mandat de 4 ans. Il sera à la tête d'un attelage inédit formé avec les Verts et les libéraux du FDP. Olaf Scholz prend les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant d'hommes que de femmes, dont certaines occupent des postes importants comme les affaires étrangères ou l'intérieur. Plusieurs fois ministre, ancien maire de Hambourg, la seconde ville du pays, Monsieur Scholz a reçu une myriade d'hommages des dirigeants du monde, dont celui du président américain Joe Biden, qui a affirmé vouloir développer les relations fortes entre Washington et Berlin.
Le président américain Joe Biden a déclaré hier qu'il espérait annoncer d'ici vendredi la tenue d'une réunion entre des pays de l'OTAN et la Russie afin de discuter des préoccupations de Moscou sur les activités de l'Alliance, tout en écartant l'hypothèse d'un déploiement de soldats américains en Ukraine.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va se rendre la semaine prochaine en Asie du Sud-Est pour une tournée visant à souligner l'importance de la région Indo-Pacifique au cœur de la stratégie anti-Chine des États-Unis et dénoncer l'aggravation de la situation en Birmanie.
Le procès des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés le 22 mars 2016 à Bruxelles s'ouvrira le 10 octobre 2022 dans la capitale belge, a annoncé hier soir la cour d'appel chargée d'organiser l'audience.
Seront jugés par la cour d'assises de Bruxelles un total de 10 hommes, dont le français Salah Abdeslam.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique et voaafrique.com.
À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
En Guinée, le chef de la transition, Mamadi Doumbouya, a limogé le gouverneur de la Banque centrale qui dirigeait cette institution depuis 10 ans. Le colonel Doumbouya a pris les rênes de la Guinée après avoir renversé Alpha Condé début septembre. Il vient de nommer Karamo Kaba, un jeune économiste, à la tête de la BCRG. Les deux vice-gouverneurs de la banque ont aussi été remplacés. Equinix, fournisseur mondial de data centers et services d'hébergement et d'infrastructures, a annoncé l'acquisition de la société MenOne, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de solutions de communication pour les entreprises en Afrique de l'Ouest. Selon Financial Afrique, Equinix veut devenir l'une des principales sociétés africaines d'infrastructures numériques neutres vis-à-vis des opérateurs. Ici, aux États-Unis, 4,2 millions d'Américains ont démissionné en octobre pour profiter des opportunités professionnelles créées par la reprise économique. La conjoncture est sans doute l'une des plus favorables aux travailleurs depuis des décennies. Les entreprises peinent à recruter et doivent améliorer les conditions salariales pour attirer de nouveaux candidats.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. C'est historique. Le FC Barcelone se retrouve éliminé dès la phase de groupe de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans. Les Catalans ont encore été balayés 3-0 par le Bayern Munich mercredi lors de la dernière journée des poules de la C1. Ils devront donc continuer leur parcours continental en Ligue Europa qu'ils rejoindront en 16e de finale. Alors qu'en parallèle, dans le même groupe, le Benfica Lisbonne s'est qualifié en se défaisant du Dynamo Kiev 2-0. Lille s'est imposé 3-1 à Wolfsburg, un succès qui lui offre la première place du groupe G et un billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire après l'édition 2006-2007. Le RB Salzbourg s'est qualifié pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire face au Séville FC 1-0. En clôture donc de cette phase de groupe et termine deuxième derrière les Lillois. Les Autrichiens ont acquis leur qualification grâce à la jeunesse de leur effectif. Rappelons que dans le groupe H, à Saint-Pétersbourg, le Zénith et Chelsea se sont départagés 3 buts partout. À Turin, Juventus a battu Malmö 1-0. Dans le groupe F, à Old Trafford, Manchester United à domicile donc, et Young Boys ont fait match nul 1 but partout. La rencontre Atalanta-Bergame-Villarreal est reportée à ce jeudi soir. L'international ivoirien Sébastien Haller, qui a encore marqué avec l'Ajax lors de la victoire du club néerlandais contre le Sporting Lisbonne, est resté tout seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec 10 unités, car les derniers matchs de la 6e journée ce mercredi n'ont rien changé dans le haut du classement des buteurs. Coupe arabe FIFA 2021, à l'issue de la phase de poule de cette coupe donc, qui se déroule actuellement au Qatar, le choc opposera ce week-end en quart de finale les Fenecs d'Algérie aux Aigles de Carthage du Maroc. Le fair play, le nombre de cartons reçus a coûté à l'Algérie la tête du groupe face à l'Égypte. Quant au Maroc, il a remporté hier une 3e victoire de suite, confirmant ainsi son statut de candidat au titre. Le Liban a battu le Soudan, tandis que l'Arabie Saoudite et la Palestine prennent la porte. L'ancien footballeur de légende brésilien, Pelé, est retourné à l'hôpital pour poursuivre son traitement d'une tumeur au côlon. C'est ce qu'on a appris hier de l'établissement médical de São Paulo, où il avait passé 1 mois en septembre. Le Royaume-Uni et le Canada rejoignent les États-Unis et l'Australie dans le boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Nouveau revers pour le régime chinois accusé par les Occidentaux de fouler aux pieds les droits humains.
Page de sport signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un sommet virtuel sur la démocratie à l'initiative de la Maison-Blanche commence aujourd'hui et se termine demain. Il regroupe des dirigeants de gouvernement, de la société civile et du secteur privé pour se focaliser sur les défis et les opportunités auxquelles font face les démocraties et sera une plateforme pour les dirigeants d'annoncer des engagements, des réformes et des initiatives individuelles et collectives pour défendre la démocratie et les droits de l'homme. John Lindon a joint à Lomé au Togo, Louis Maglo à Kemayo, journaliste et analyste politique.
Je pense que l'initiative d'organiser un sommet sur la démocratie est bienvenue parce qu'elle se porte mal actuellement. Elle se porte mal aux États-Unis, on l'a vu avec les dernières élections, la présidentielle, qui ont été très contestées dans un pays où la tradition voulait que les candidats se soumettent à certaines règles. Et elle est encore plus dans les pays où elle n'était pas encore enracinée parce qu'en se basant sur ce qui s'est passé aux États-Unis, certains sont tentés de dire « et pourquoi pas nous ?» et de montrer que la liberté d'expression, que la liberté de la presse, que la défense des droits de l'homme, l'état de droit, sont des valeurs qui sont importantes et qui doivent être partagées par l'ensemble de l'humanité. Et donc c'est pourquoi, de mon point de vue, ce sommet est plutôt bienvenu.
Vu sous l'angle africain, quelle est l'analyse que vous pouvez faire sur les progrès ou même les reculs de la démocratie en Afrique de façon globale?
De façon globale, je peux dire qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on est plutôt désabusé par rapport à la démocratie parce que quand vous regardez la recrudescence des coups d'État, il y a des pays où il y a eu deux coups d'État en moins de 10 mois, suivez mon regard, c'était au Mali. Et dans la plupart des pays, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Tchad, où ce n'était pas proprement parler en coup d'État, les coups d'État sont plutôt salués par les populations et c'est donc dangereux aujourd'hui de se retrouver face à une situation où les principales victimes du retard de la démocratie, du manque de démocratie, du déficit de démocratie sont ceux qui applaudissent les personnes qui attaquent la démocratie dans ses fondements. Et donc, c'est pour ça qu'en regardant la situation sur le continent africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale ou même beaucoup plus loin dans l'Afrique des Grands Lacs, on a l'impression que ça stagne et que par moments ça recule même. Il n'est que temps aujourd'hui de relancer ce processus-là et de rassurer les uns et les autres sur le fait que la démocratie, ce n'est pas pour les uns, mais que c'est pour tout le monde. La démocratie n'est pas uniquement occidentale, elle peut être africaine, elle est une aspiration humaine légitime.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce sommet de Washington ou qu'est-ce qui peut en ressortir?
Il va ressortir de ce sommet de Washington, malheureusement, des positions de principe qui, si elles ne sont pas suivies de mesures sociales et économiques qui permettront aux gens de s'en sortir davantage face à la mondialisation qu'ils considèrent comme un rouleau compresseur, ils n'en sortiront malheureusement pas grand-chose. Ce seront des déclarations de principe et ce ne sont pas les déclarations de principe qui garantissent les garde-fous. Il faut aller beaucoup plus loin que cela.
Louis Maglo à Kemayo, journaliste et analyste politique. En République démocratique du Congo, l'armée, la MONUSCO, la force de l'ONU se sont dotées d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre la centaine de groupes armés sur le territoire congolais. Désormais, avec le nouveau manuel de procédure, la MONUSCO va passer à l'action d'après le général Alfonso Da Costa, commandant en chef de la force onusienne. Eddie Sango a joint à Kinshasa l'un des membres de la commission de suivi et d'évaluation de l'Assemblée nationale, le député gratien de Saint-Nicolas Irachan.
Depuis un certain temps, les forces de la MONUSCO et les forces de la République démocratique du Congo ne pouvaient plus faire les opérations ensemble. Donc, il y avait des divergences sur les plans d'action, d'attaque, donc des offensives. Et donc, ce qui est nouveau est que maintenant, ils vont avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble au niveau des groupes armés qui sont en train de tuer la population à l'est. Mais aussi, il faut affirmer que la MONUSCO avait posé des conditions qu'elle ne pouvait pas travailler avec des officiers qui sont impliqués dans les crimes, selon les différents rapports internationaux. Et donc maintenant, c'est vrai que cette collaboration va se passer avec des officiers dont on ne reproche pas de criminalité sur terrain. Donc c'est ça les défis nouveaux. Les premiers, c'est le fait d'avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble, attaquer les groupes armés. Mais de deux, avoir des officiers qui ont les mêmes propres, qui ne sont pas impliqués dans les crimes contre l'humanité ou les crimes de masse dans les différentes zones sous opération.
Le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala, a demandé à la MONUSCO d'appliquer les chapitres 7. J'ai appelé tout à l'heure la MONUSCO. Le porte-parole m'a dit que la MONUSCO a toujours appliqué les chapitres 7. Ça veut dire quoi dans tout cela, vous qui êtes dans la commission des suivis? Est-ce que la MONUSCO va maintenant faire la guerre avec les rebelles et les milices sur le sol congolais?
Évidemment, la MONUSCO a toujours été sous chapitre 7, compte tenu de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais c'est vrai que ce chapitre 7 n'a pas toujours été utilisé ou appliqué comme il faut. Alors, évidemment, ce sont les brigades d'intervention qui s'occupaient beaucoup à pouvoir appliquer ce chapitre 7. Et vous savez que depuis un certain temps, depuis que la position des FRDC vers la région de Nord Kivu, là où il y a le triangle de la mort, l'axe Mbaou, Kamango, a été attaqué. Et finalement, cette brigade d'intervention a fait presque marche arrière et n'a pas continué à travailler comme il faut avec ce chapitre 7. Du coup, on n'a pas vu les forces des Nations Unies pouvoir s'impliquer activement par la force. Et après, il y a eu alors des observations selon lesquelles les Nations Unies reprochaient qu'il y avait des officiers qui avaient des mains sales, qui auraient participé à des crimes au niveau des différents fronts et que les Nations Unies ne se sentaient pas capables de pouvoir travailler avec ce genre de personnes. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y avait aussi des problèmes. Et voilà un peu que peut-être que maintenant, ils vont revenir pour appliquer réellement ce chapitre 7. Parce qu'on a toujours déploré que ce chapitre 7 ne soit pas appliqué comme il faut.
Le député congolais Gracien de Saint-Nicolas Iratchan, membre de la commission de suivi et d'évaluation du Parlement en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité a pris fin hier. La lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel a été un des points forts de débat. Les États-Unis ont été représentés par Tobin Bradley, le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression. Joint à Dakar par Abdourahman Dia, Tobin Bradley tire pour nous les enseignements de ce forum.
Le Forum international de Dakar sur la sécurité a vraiment témoigné du désir des pays africains de prendre l'initiative de relever les défis urgents en matière de sécurité. Il témoigne des grands défis que nous avons et auxquels nous faisons face, et aussi des solutions que nous pouvons réaliser ensemble.
Comment est-ce que les États-Unis comptent-ils appuyer les efforts de lutte contre les groupes armés dans le Sahel? Est-ce une présence militaire accrue ou bien c'est dans d'autres domaines que les États-Unis comptent appuyer la région?
Combattre les groupes armés au Sahel est extrêmement complexe. Pourtant, nous savons que les solutions militaires seules ne fonctionnent pas et les États-Unis soutiennent divers programmes ciblant les causes profondes de l'extrémisme, notamment la nécessité pour les gouvernements partenaires de gagner et de conserver la confiance de leurs citoyens. Par exemple, mon bureau, le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression au département d'État, soutient des programmes de sécurité à travers le Sahel dans lequel les forces de l'ordre et un ensemble de services ont formé des partenaires pour améliorer la sécurité et instaurer la confiance. Ce que nous essayons vraiment de faire, c'est de consolider les institutions qui permettent de rendre les activités terroristes moins attrayantes au sens large.
Monsieur Bradley, comment est-ce que les États-Unis apprécient-ils le travail des instances comme le G5 Sahel, Est-ce que Washington privilégie la coopération directe avec les États ou à travers des instances comme le G5?
Je dirais que les organisations régionales jouent un rôle essentiel dans la diffusion des meilleures pratiques dans les opérations conjointes, le partage d'informations. Des efforts d'organisations comme le G5 Sahel ou d'autres organisations régionales comme la CDAO, tout comme les ONG et les réseaux d'organisations maritimes régionales, sont des initiatives puissantes sur les intérêts communs et l'engagement à lutter contre la menace croissante et évolue dans la région. Cela dit, toute initiative régionale n'a que le reflet des forces de ces éléments constitutifs. Nous souhaitons donc également travailler avec les nations pour qu'elles puissent élever leurs institutions et leurs capacités aux normes internationales afin qu'elles puissent être des partenaires plus efficaces lorsqu'elles se mettent ensemble dans ces organisations régionales.
C'était Tobin Bradley, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau américain des affaires internationales de stupéfiants et de répression.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, quelle réponse régionale face aux groupes armés? Fin novembre, quatre pays, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont lancé une opération conjointe contre les groupes djihadistes. L'armée ougandaise mène depuis quelques jours des opérations contre les ADF dans l'est de la RDC. Et il y a quelques mois, des soldats rwandais sont venus à la rescousse du Mozambique pour vaincre les djihadistes dans la province du Cabo Delgado. Quelle stratégie régionale face aux djihadistes? La mutualisation des forces militaires peut-elle venir à bout de ces groupes armés? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Direction le Mali, c'est en présence de plusieurs ministres du gouvernement, d'ambassadeurs accrédités et de personnalités de la culture, que l'ambassadeur des États-Unis au Mali a procédé à la remise d'objets archéologiques issus de pillages aux autorités de la transition. Un acte qui traduit l'excellence des rapports entre Washington et Bamako. Le compte-rendu de Mohamed Danioko dans la capitale malienne.
L'ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis Hankins, a procédé hier mardi à la remise de plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques au premier ministre de la transition malienne, Chogalko Kadamaïga. Ces objets, issus du pillage et du trafic illicite, ont été saisis par les services des douanes américaines. La plupart de ces objets avaient été pillés entre 2008 et 2011. Dennis Hankins.
Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages ici et d'exportation illicite des produits. Dans certains cas, il y avait des informations données par le gouvernement malien, même par le musée national, qui ont vu les objets maliens dans le marché américain. Il y avait une investigation. Dans d'autres cas, c'était seulement un container qu'ils ont vu avec les dites produits artisanaux qui étaient vraiment historiques. Alors c'est notre service de douane qui a saisi pendant les derniers 10 ans.
Le retour de ces objets issus du pillage montre clairement les avantages de la coopération américano-malienne en matière de protection du patrimoine culturel du Mali. Parmi les objets figurent des grandes urnes funéraires, un vaisseau funéraire Dogon, une coupe cérémoniale unique, des haches, des pierres, des poteries et des bracelets. Un geste salué par le Premier ministre Chogalko Kalamaïka.
Je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple américain pour ce geste ô combien symbolique avec toute sa charge d'émotion et de joie. S'il est inédit par son ampleur, le retour de 900 objets s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord existant entre nos deux pays.
Les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux sur les biens culturels avec 23 pays. Le Mali est le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir un tel accord. Mohamed Danioko, VOA, Bamako.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot et à la technique, Kelvin Fowler.